Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne pour un nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec vous. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une femme au parcours d'une richesse sans pareille. Une femme aux multiples talents, dont l'itinéraire de vie est une véritable ode au monde du livre et de la culture. Bonsoir Claire Delbar.
Bonsoir.
Et je vous souhaite la bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne.
Merci pour votre accueil.
La tradition de J'ai rendez-vous avec vous veut que les invités choisissent leur programmation musicale. Aussi, pour commencer, vous avez choisi Petite Fleur de Sidney Bechet. Alors pourriez-vous me dire en deux mots pourquoi ce choix ?
Parce que c'est une musique que j'ai entendue depuis que je suis petite et que c'était le morceau préféré de mon papa.
Ah, donc c'est une... Il y a un côté sentimental...
Un peu nostalgique, oui.
Nostalgique, très bien. Eh bien, alors nous écoutons tout de suite Sidney. Claire Delbar, ouvrons à présent le livre de votre vie professionnelle. Éditrice, journaliste, auteur, enseignante, chef d'entreprise, il faudrait presque une émission entière, rien que pour dresser la liste de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait au cours de votre existence. Depuis un quart de siècle, vous naviguez avec passion dans l'univers de l'édition et du rédactionnel. Formée à la Sorbonne, diplômée de commerce, vous avez même décroché un doctorat en histoire de l'édition contemporaine. Après une belle carrière à Paris chez de grands éditeurs comme Bordas ou Rajot, vous avez choisi de poser vos valises en Bourgogne Et c'est justement à Périgny-lès-Dijon que vous avez fondé l'Atelier des Noyers, votre propre structure d'édition et de service que vous dirigez, le tout compris, depuis 18 ans. Passionné, polyglotte, bilingue français-allemand, anglophone, russophone, vous ne faites jamais les choses à moitié. Ajoutons à cela, et pour couronner le tout, que vous êtes marié avec deux enfants. Mais dites-moi, Claire, d'où vient cette énergie déployée depuis toutes ces années ?
Ah, d'où vient l'énergie, ça je ne sais pas. En tout cas, l'idée dans sa vie, c'est d'essayer d'en faire quelque chose, de peut-être se rendre utile et faire son colibri dans les secteurs où l'on peut. C'est peut-être ça notre mission, en fait.
Éditrice, journaliste et enseignante, disais-je, lequel de ces rôles vous correspond le mieux, finalement, et pourquoi ?
Alors, journaliste, j'ai travaillé comme journaliste au Petit Futé, mais ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas formée au journalisme, je suis plutôt formée au rédactionnel, je dirais, avec les études de lettres. Entre le métier d'éditrice et le métier d'enseignante, il y a pour moi un point commun, qui est le point commun de la passation. En fait, ce qui m'intéresse dans ces différents métiers, c'est la manière dont on peut passer des connaissances, dont on est passeur de quelque chose, indépendamment de ce que nous sommes, mais de la trace peut-être que l'on peut laisser ou de ce que l'on peut apporter en passant des connaissances. Donc ça va être ça le point commun, en fait, sur l'ensemble des activités que j'ai pu exercer.
Très bien, et c'est aussi, j'allais dire, le propre de l'enseignant, d'ailleurs, de transmettre.
Alors pour moi, c'est la fonction première d'enseignant, oui. D'être à l'écoute et de pouvoir transmettre et d'aider aux talents, de permettre aux talents des étudiants, des enfants, des personnes à qui on enseigne, de pouvoir émerger. En fait, on est là comme un réceptacle de quelque chose, comme une courroie de transmission, en fait, quelque part.
Et pour faire grandir les enfants qui nous sont confiés,
ouais,
également.
Exactement, je pense que ça démarre tout petit, ça démarre même au berceau. On va parler sans doute de poésie après. Et la poésie, c'est même pour les tout petits bébés. C'est pour tout le monde, du plus jeune âge jusqu'aux derniers instants.
Alors, vous avez travaillé sur des livres scolaires chez Bordas. Vous avez aussi travaillé pour créer des guides touristiques. Vous vous êtes adonné à la littérature jeunesse. Est-ce qu'il existe un projet dont vous êtes particulièrement fier dans ces trois domaines évoqués ?
Alors la fierté, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui m'est assez étranger. C'est pas de la fausse modestie, je dirais plutôt un sentiment d'accomplissement sur le devoir ou la mission qui nous est confiée. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'on a réussi à faire en 10 ans avec l'atelier des Noyers et avec la poésie, c'est quelque chose qui est très comblant sur les axes que l'on a pu proposer. Donc effectivement, c'est la dernière chose en date, mais de toute façon, si on me demande ce qui est mon sentiment d'accomplissement, clairement, ça n'est pas mon travail, mais plutôt ma famille et mes enfants.
Ah.
Mais on n'est pas là pour parler d'eux.
Non, du tout.
Mais je pense que dans l'idée de passation, c'est ça aussi. Je veux dire, quand on a des enfants, on accueille les enfants que nous avons et on essaye de les faire grandir et de leur proposer des orientations, d'écouter leurs souhaits et de les mettre non pas sur des rails, parce que la vie maintenant n'est plus faite avec des rails, mais plutôt avec des changements, d'orientation,
des
virages et des sentiers. Mais c'est toujours un petit peu la même chose, et quelque part c'est, je pense, les mêmes dispositions d'écoute et de passation qui sont en jeu.
Mais ça, c'est tout de même intéressant ce que vous avez dit, je rebondis un peu là-dessus. Parce qu'encore une fois, vous avez un parcours diversifié, très riche, et puis malgré ce parcours, vous n'avez justement jamais oublié votre famille et vos enfants, et d'où là vous venez.
J'ai essayé d'être présente. Il y a des moments où c'est plus compliqué. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est dans l'enseignement, donc il y a beaucoup de travail, mais qui peut aussi avoir du travail à la maison. Donc on s'est aussi réparti les rôles par rapport à ça. Mais effectivement, c'est une responsabilité d'être parent.
Absolument.
Quand on est responsable d'entreprise ou d'équipe, on a une responsabilité vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous travaillons. Je pense que la famille, c'est aussi quelque chose d'important dans ce sens-là.
Vous avez eu un parcours très parisien et vous êtes venu vous installer en Bourgogne. Bibliothécaire à Périgny-lès-Dijon, enseignante à l'Université de Bourgogne. Mais dites-moi, Claire, en quoi la Bourgogne vous a-t-elle séduite ? Et est-ce que ce lien avec le territoire bourguignon est important pour vous ?
Alors, ce lien est important pour nous. Pourquoi nous sommes en Bourgogne ? J'ai un mari qui est originaire qui a de la famille en Bourgogne dans les générations précédentes. Nous étions établis à Paris. Moi, je suis parisienne de 4 générations, hein, donc je n'ai pas le bon exemple pour l'installation en Bourgogne. Mais on avait toujours dit avec Olivier qu'on s'installerait ailleurs. Et le moment était venu quand les enfants commençaient à en grandir. On souhaitait leur offrir une vie différente de celle de la vie parisienne, qui présente de nombreux avantages, mais aussi de nombreux inconvénients. Et donc, on a regardé un cercle autour de 2 heures de TGV de Paris, et on a retrouvé racine en Bourgogne en 2003. Et effectivement, maintenant, nous nous considérons comme bourguignons d'adoption. Les enfants se sentent plus bourguignons que parisiens.
Que parisiens. C'est clair. Alors, vous êtes à la tête de l'atelier des Noyers. Si je dis maison d'édition indépendante,
ça me va bien, ça me va vraiment bien, ça correspond bien à ce que nous faisons.
Et justement, alors, l'atelier des Noyers, d'abord, pourquoi ce nom, atelier des Noyers? Comment l'avez-vous choisi?
Alors, le nom de la maison d'édition est assez simple à expliquer. L'atelier, c'est un endroit où l'on bricole, où on n'a pas de certitude, où on expérimente. Donc, je trouve que par rapport à une maison d'édition, c'était assez juste comme choix de mots. De plus, comme j'ai travaillé sur le Père Castor et que ça s'appelait l'atelier du Père Castor, j'ai aimé l'idée de faire un clin d'œil au Père Castor par cet intermédiaire-là. Et des Noyers pour plusieurs raisons. La première, qui est très prosaïque, c'est que nous habitons rue des Noyers, donc ça c'est voilà. La deuxième, c'est que et non pas la Noyère-sur-Serein comme on me pose souvent la question. La deuxième, c'est que la noix est un fruit qui ne se périme pas et qui dure tout l'hiver, et je trouve que par rapport à la longévité et l'universalité de la poésie, ça va très bien. Et ensuite, on m'a fait remonter la chose suivante, que l'intérieur de la noix était aussi le symbole du cerveau et de l'intelligence, mais je n'y avais absolument pas pensé. Donc à mon corps défendant, c'est l'atelier des Noyers, parce que les noix se gardent tout l'hiver et qu'on est content de les avoir à disposition.
Oui, parce que votre catalogue de l'atelier des Noyers, effectivement, brille, on va dire, par la poésie de ces textes. C'était un peu drôle de vous entendre dire j'habitais à rue des Noyers, bon voilà.
C'est prosaïque, mais quelquefois les choses sont prosaïques et il faut pas non plus le nier. Et de toute façon, je ne pouvais pas appeler mes éditions de mon propre nom, puisque ce nom est déjà déposé pour des fleurs, donc la question n'était même pas posée. Mais j'aimais bien l'idée de trouver un mot qui soit rassembleur, et je trouve que les Noyers, l'atelier des Noyers, ça va bien, ça correspond bien en tout cas à l'esprit de ce que nous développons.
Et puis le noyer est un arbre robuste également.
Exactement, hein? Résistant,
voilà.
Comme la poésie.
Exactement. Alors nous allons à présent écouter Peter Gabriel avec un morceau que vous avez choisi qui s'intitule « Don't give up ». Pourquoi avez-vous choisi, là, pour le coup, Peter Gabriel?
Alors, Peter Gabriel, c'est le chanteur de ma jeunesse. Depuis mon adolescence, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et « Don't give up » nous invite à ne jamais renoncer. À être toujours remettre toujours le métier sur la table. Et je pense que c'est par les temps qui courent et dans les difficultés, c'est une chanson qui est très consolatrice, et j'aime aussi cette idée-là de la chanson ou de la poésie qui console.
Don't give up de Peter Gabriel.
Proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
Don't give up, I know you can.
Claire Delbar, votre maison d'édition, l'Atelier des Noyers, repose essentiellement, je ne crois pas me tromper en disant cela, autour de la poésie.
Absolument, on a 98% de titres qui sont des titres de poésie contemporaine,
oui.
Qui sont illustrés par des auteurs, par des plasticiens de différentes formation, il va y avoir des photographes, il va y avoir des huiles, il va y avoir des gouaches, il va y avoir des traits, donc avec différentes, l'idée étant de faire écho entre différentes formes artistiques.
Et je vous remercie, vous me tendez une perche, parce que justement, d'où vient ce choix d'associer toujours un auteur donc de texte avec le travail d'un plasticien, d'une plasticienne.
Alors, dans le concept de collection de l'Atelier des Noyers, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le beau. L'Atelier des Noyers, les collections sont nées après les attentats du Bataclan. Et c'était notre manière à nous de résister en proposant le beau en regard du texte. Mmh. On n'a pas inventé cette chose-là. Au XIXe siècle, il existait déjà des livres d'artistes qui mettaient en regard des peintures avec des poèmes. Mais l'idée, c'était de privilégier l'accessibilité, donc d'essayer de fabriquer des ouvrages à moindre coût pour pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre. et effectivement de proposer un prolongement, de proposer un écho. Je n'aime pas dire une illustration parce qu'en fait les images n'illustrent pas les poésies, mais sont vraiment un écho. Je dis que quand on me demande ce que c'est que l'atelier des doyers, je prends volontiers l'image du triptyque, auteur, éditeur et plasticien. Et en fait, c'est ce qui se joue à l'intérieur de ces trois choses-là, de ces trois personnes-là, qui va donner l'écrin qui est le livre. Mais en fait, il n'y a pas l'un qui a plus d'impact que l'autre. Pour nous, l'image a autant d'importance que le texte et l'édition aussi, puisque c'est quelque chose que nous faisons ensemble.
Mmh. Mais alors ces images, je ne veux pas dire illustration, mais ces images en regard des textes, il y a peut-être un effet miroir tout de même.
Alors il y a un effet miroir, c'est la manière dont le plasticien ressent le texte quand, dans le cas où l'illustration est seconde, parce que la particularité que nous avons aussi, c'est qu'en fait on n'a pas une méthode de travail seule, mais en fonction des projets, les choses sont différentes. On peut avoir tantôt choisi un univers de poème et aller ensemble avec le poète ou la poète chercher l'univers graphique. On peut avoir un coup de cœur dans une expo pour un univers graphique et contacter le plasticien et ensuite aller chercher ensemble un poète. D'accord. Et quelquefois, ça se construit pierre à pierre entre l'auteur et le plasticien. Sur les 165 titres que nous avons au catalogue, on a une dizaine de titres où les fiancés, je les nomme comme ça, sont arrivés déjà fiancés avec un projet où il y avait déjà texte et images. Oui. Mais c'est loin d'être le cas de figure que je préfère parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir chacun se rapprocher l'un de l'autre. Et quand quelque chose a déjà été monté avec deux personnes, c'est plus difficile de faire évoluer le projet. Et en plus, il est rare que j'ai le même coup de cœur, la même force d'émotion sur le texte et sur l'image d'une proposition. Donc, quand on nous envoie une proposition qui est déjà texte et image, on a plus de risques, quelque part, de ne pas être retenu parce qu'on n'aura pas eu forcément la même vibration ou la même intensité de réception sur les deux éléments. Mais c'est quand même arrivé une petite dizaine de fois sur l'ensemble du catalogue.
Donc, il vous arrive aussi de recevoir des textes poétiques, d'une part, des images d'autre part.
Oui, tout
et,
à fait.
Et de voir par quelle alchimie vous pouvez les associer.
Alors, on a quand même plus de 50%, une majorité de textes qui sont choisis en premier et pour lesquels on va aller choisir un univers graphique, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Alors après, ça c'est vraiment une vision singulière et particulière de l'éditeur. Quand je reçois un texte qui me fait vibrer et dont l'émotion est forte, j'imagine quel univers graphique on va pouvoir proposer et on en discute avec le ou la poète et on va aller chercher, trouver ensemble le meilleur écrin possible et la meilleure alchimie. On n'a pas de... Comment, il n'y a pas de cas où... Alors, de toute façon, en édition, j'irai pas imposer une vue graphique à un poète si cette dernière ne lui parle pas. Mais il n'y a pas eu de cas où on n'est pas travaillé sur l'ensemble avec le premier membre du binôme.
Oui, voilà. Oui. Comment votre maison d'édition fonctionne-t-elle, Claire ? Est-ce qu'elle est composée des différents métiers qui caractérisent habituellement la chaîne du livre ? Comment, logistiquement, j'allais dire, économiquement, comment fonctionne-t-elle ?
Alors, logistiquement, elle fonctionne comme une maison d'édition classique, c'est-à-dire que nous établissons des contrats avec nos auteurs et plasticiens, un contrat d'éditeur, donc avec des relevés de droits, avec des avaloirs, avec tout le fonctionnement classique d'une maison d'édition. Mais quand on dit maison d'édition, c'est vrai que ça recouvre des réalités très différentes de métiers. Mmh. Il y a la lecture et la sélection des manuscrits, il y a la production des ouvrages une fois que l'ensemble est enclenché, où nous travaillons. Alors, je travaille avec une maquettiste extérieure, il y a la relation avec l'imprimeur, ensuite il y a la relation avec les libraires, la relation avec les bibliothécaires. Il y a tout ce qui concerne la médiation, qui est en fait la manière dont nous arrivons à promouvoir les ouvrages en dehors des circuits traditionnels. Pour donner une image, on fait à peu près la moitié de notre exercice auprès des librairies et l'autre moitié est dans des salons, dans des manifestations, dans des interviews, dans différentes formes que l'on peut développer. Et c'est très important parce que la poésie reste encore un champ littéraire qui est moins facilement abordable pour un certain nombre de personnes, ce qui est dommage, même si avec la poésie contemporaine et l'évolution vers la performance, on a quelque chose qui a bougé et qui est plus accessible. on a encore des a priori sur la poésie, on n'y va pas forcément spontanément. Donc le fait de pouvoir proposer des expositions, des lectures musicales, des lectures dansées, des interventions comment, de fabrication d'ouvrages, par exemple, rend la chose plus accessible.
Tout à fait.
Donc ça, c'est une partie du métier aussi. Donc effectivement, je suis la seule salariée à mi-temps de la structure, mais je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec une maquettiste, je travaille avec un imprimeur, je travaille avec des libraires, des bibliothécaires et toutes les personnes de la chaîne du livre. Le métier d'éditeur, c'est un métier complexe, varié, très évolutif. Quand j'ai commencé ce métier, il y a une quarantaine d'années maintenant, puisque j'ai un peu plus de 60 ans, on faisait toutes les choses à la main, on préparait les illustrations étaient préparées, étaient posées sur des calques. On n'avait pas au niveau technologique, ça a considérablement évolué, donc on ne peut pas dire vraiment que ça soit encore le même métier. Mais par contre, il y a des choses qui ont évolué aussi au niveau juridique, donc on est obligé de mener une veille sur les différents axes économique de notre métier, parce qu'on peut pas faire autrement, donc voilà. Sinon on est le train passe sans nous, donc il faut bien se tenir au courant.
Oui, par exemple, est-ce que vous, c'est toujours technique, question technique, est-ce que vous utilisez la PAO pour
ouvrages? Alors pour les ouvrages, les images sont réalisées selon le souhait des artistes, hein. Ça peut être des photos, ça peut être des encres, ça peut être des gouaches, et ensuite c'est numérisé avec une certaine définition, et c'est ensuite mis en page en PAO par la maquettiste. Mmh. Alors moi je distingue, je fais partie de la génération des anciens éditeurs, de ce point de vue-là, je suis capable de commander une maquette ou de corriger une maquette, mais je ne suis pas capable de faire une maquette, et je considère que ça n'est pas mon métier, et que la plus-value de mon métier, c'est plutôt l'œil que je peux porter sur ce travail fait, plutôt que sur la réalisation de la maquette en elle-même. J'en serais bien incapable, et c'est pas mon métier.
Vous êtes la chef d'orchestre.
Je suis la chef d'orchestre. Le métier d'éditeur, c'est un métier effectivement de chef d'orchestre, de coordination de différents métiers. Au même titre que j'ai une lecture critique sur les manuscrits, je propose aux auteurs, quand c'est nécessaire, des suggestions, mais je ne suis pas correctrice, donc je fais aussi relire à l'extérieur, parce que la correction, d'accord, c'est un métier. Donc on a des intervenants différents au sein de la structure, mais qui ne sont pas salariés, parce qu'on n'en a pas les moyens financiers. Même si on vend bien nos livres, on est une petite structure.
Oui, bien sûr, oui. Comité de lecture. Alors, je suis curieux, bien entendu. C'est bon.
Pour rentrer dans les arrière-cuisines de la maison d'édition.
C'est mon métier. Je suis allé sur le site de l'atelier des Noyers. Alors, j'ai vu pour l'instant que la réception de nouveaux manuscrits était en stand-by, en tout cas jusqu'à ce mois de juin.
Oui, ça sera peut-être même d'ailleurs le mois de septembre, compte tenu du travail en cours.
Voilà. Alors, je me suis posé plusieurs questions. Alors, la première question, je me suis dit, est-ce que l'atelier des Noyers est tant mieux, finalement, est submergé par le succès et il ne peut plus abonder dans les demandes, ou alors à l'inverse, est-ce que les propositions sont de plus en plus nombreuses et qu'il devient un peu compliqué de faire le tri?
Alors je vais vous répondre en reprenant l'historique. Quand on a démarré en 2016, on ne nous connaissait pas, donc on a fait appel aux personnes que l'on connaissait en poésie et aux personnes dont on appréciait le travail graphique pour constituer le début du catalogue. De fil en aiguille, en allant régulièrement au marché de la poésie, en étant présent sur les manifestations, les manuscrits ont commencé à arriver avec une façon encore possible à gérer pendant les premières années. Et ensuite, effectivement, quand on a une production qui est régulière, ce qui est notre cas et qui a été plutôt abondante, vu le nombre de titres que nous avons au catalogue, la tentation est grande de la part des auteurs et des plasticiens de proposer des choses, y compris même quand on dit que le comité de lecture n'est pas ouvert. Donc j'ai fermé ce dernier parce que je ne suis techniquement pas en capacité de lire les manuscrits actuellement. Je suis sur la production des ouvrages. On a notre production de 2026 qui est partiellement réalisée et celle du deuxième semestre qui est en cours. Et j'attends, pour ouvrir le comité de lecture, d'avoir le temps matériel de regarder les manuscrits. Du côté des auteurs, on comprend cette envie qu'il y a d'être lu. En même temps, c'est bien aussi de pouvoir respecter le fonctionnement d'une maison d'édition. Matériellement, je n'ai pas le temps de lire des manuscrits. Je suis toute seule pour l'éditorial et c'est déjà un travail énorme. Donc, c'est pas sérieux de dire qu'on peut gérer des manuscrits en nombre si on n'a pas un comité extérieur. Donc pour expliquer par rapport aux critères de sélection, ce ne sont pas des critères... Alors ce sont des critères qualitatifs par rapport à notre grille de lecture ou par rapport à nos souhaits. Ça n'a pas à voir avec la qualité en elle-même des manuscrits, c'est ce que j'explique toujours aux auteurs. Un manuscrit peut, à un instant T, ne pas convenir à une maison d'édition pour X raisons. Mmh. On a déjà publié un certain nombre d'ouvrages dans différentes collections. Si un ouvrage qui nous est proposé a une thématique trop proche ou un traitement trop proche de quelque chose que l'on vient de publier, c'est clair qu'on ne pourra pas le retenir, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne trouvera pas une jolie place chez un confrère ou une consœur. Donc la logique en fait de choix de la maison d'édition, elle revient vraiment à l'éditeur. Donc dans les critères de ce que je refuse, par exemple, j'ai pas besoin de comité de lecture pour refuser un certain nombre de manuscrits. Il faut dire que dans ce que nous recevons, il n'y a pas que des ouvrages de poésie, parce qu'on a beau insister et dire qu'on est une maison de poésie, on va recevoir des choses qui n'ont rien à voir. Donc je vais dire que le tri de ce qui est à refuser est assez facile à faire. Le tri de ce qui est excellent et pour lequel on a un coup de cœur, on n'a pas besoin d'avoir un comité de lecture pour cela. En revanche, pour toute la proportion de ce qui se trouve entre les deux, là, effectivement, je vais avoir besoin d'un regard extérieur et je sollicite des personnes de confiance pour ça. Voilà.
Alors, le comité de lecture, c'est vous, Claire Delbar, ou vous avez un comité de lecture un peu plus étoffé ?
Je pose, il n'y a pas un comité de lecture formel au sens d'une réunion qui décide des manuscrits, okay. Mais je sollicite des regards extérieurs quand j'en ai besoin sur un certain nombre de projets.
Ponctuellement. Ouais.
Avec la difficulté que nous avons maintenant avec, on a un peu plus de 60, je crois que c'est 65 auteurs, et on arrive à 150 collaborations au total. On a envie d'un côté de suivre des auteurs en leur proposant de publier plusieurs fois à l'atelier des Noyers, mais d'un autre côté, on a aussi un équilibre à trouver avec les nouveaux projets que nous voulons promouvoir. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver, et plus les auteurs vont être nombreux, ce qui est le cas dans la maison d'édition, plus ça va être difficile d'avoir à la fois de nouveaux talents qui émergent et des talents que nous suivons. Donc c'est un exercice un peu d'équilibriste. Mmh. On ne peut pas non plus multiplier le nombre de titres pour satisfaire tout le monde. Donc il y a forcément des frustrations, il y a forcément des personnes qui aimeraient que ça aille plus vite, mais on ne peut pas. Là, je pense qu'on est déjà sur un train de publication qui est un petit peu trop élevé, donc il faut qu'on arrive à raison garder et à regarder l'avenir avec modération.
Alors, la question annexe que je voulais vous poser aussi, est-ce que vous pensez que dans la population en général aujourd'hui, il y aurait une forme d'engouement pour la poésie ou les choses n'ont pas spécialement évolué? Pour le poser autrement, est-ce que vous pensez que dans ce monde quand même très morose,
très moche, on peut le dire,
très moche, dans lequel nous vivons, la poésie pour beaucoup peut être une forme d'échappatoire?
Alors, clairement, je pense que la poésie peut être consolatrice, peut être un échappatoire, ça c'est clair. En même temps, le rapport à la poésie, c'est quelque chose de complexe. Je pense qu'on peut noter vraiment une certaine évolution depuis une quinzaine d'années aussi par la proximité que des personnes connues ont pu avoir avec la poésie. Alors je sais que des confrères et consoeurs puristes ne vont pas forcément être d'accord avec moi, mais le fait que par exemple des chanteurs se mettent à publier de la poésie, ça a rendu les choses aussi plus accessibles. Ah. Même si, alors après, la question se pose de la qualité de ce qui a été produit, mais l'idée d'avoir un lectorat plus large par ce biais-là, c'est pas inintéressant. La manière dont la poésie est enseignée à l'école a aussi beaucoup évolué, et donc cette chose-là fait qu'on a un rapport qui est moins compliqué, je pense, un abord plus direct à la poésie. Et le fait qu'elle soit aussi très présente dans la transversalité des arts aide à entrer à l'intérieur de le travail avec les expositions, le travail avec les œuvres plastiques, c'est quelque chose qui aide vraiment. Les lectures musicales, c'est quelque chose qui aide vraiment à entrer en poésie. Et nous, le plus joli compliment qu'on ait pu avoir plusieurs fois sur nos collections, c'est « Ah, mais la poésie, c'est pour nous aussi. » Oui, la poésie, c'est pour tout le monde. Mmh. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de qualification pour aimer lire de la poésie. Et si on peut avoir un livre qui nous correspond dans notre poche, on aura fait notre travail.
Donc la poésie peut tout à fait toucher à la culture populaire, c'est ce que
exactement.
Vous êtes en train de dire.
La poésie, c'est un spectre très large. Et d'ailleurs, dans notre catalogue, vous allez avoir des publications qui sont très grand public. Et pour moi, grand public, c'est pas à diffusion plus large, c'est pas un gros mot. Mmh. Et on va avoir aussi des choses qui sont beaucoup plus élitistes. Alors élitiste, j'aime moins ce mot, mais on va dire plus pointu et qui peut-être ne parleront pas forcément directement à un public peut-être moins versé dans la poésie. Mais c'est même pas encore si sûr que ça, parce que le fait d'avoir en écho des œuvres graphiques fait que des personnes entrent en poésie sur des textes qui pourraient paraître ardus et qui, par le biais de l'écho qui est fait par les images, est rendu plus accessible. Même chose, on ne va pas avoir des illustrations qui ne soient que des illustrations figuratives, on va aussi avoir des univers assez abstraits,
oui.
Et qui permettent simplement d'apprécier la beauté, tout simplement, la beauté de l'ensemble, sans pour autant avoir nécessairement l'envie d'être dans la compréhension, dans l'analyse. Mmh. La poésie, c'est ce qui parle au cœur en secret, c'est pas quelque chose de forcément à analyser ou à décortiquer, c'est quelque chose de l'ordre de l'émotion brute, je trouve.
Oui. Comment choisissez-vous vos poètes et vos plasticiens, plasticiennes? Est-ce qu'ils viennent à vous? Comme tout éditeur, j'allais dire, est-ce que parfois vous faites des commandes? Ou alors, vous êtes plutôt, vous recevez des propositions, ou est-ce que ça fonctionne dans les deux sens?
Alors, majoritairement, ce sont maintenant les personnes qui viennent à nous, mais je vais aussi au-devant de talents qui m'intéressent. Mm-hmm. J'ai eu la chance, depuis plus de 10 ans, d'être invitée au Festival de Poésie de Tinqueux, près de Reims, qui est un festival de poésie jeunesse, où j'ai rencontré beaucoup de poètes et aussi des plasticiens. Ça a été pour nous un vivier important. Il y a aussi des personnes, des poètes, je ne connais pas, loin de là, pas tous les poètes, mais des recommandations qui sont faites. Un poète me dit « Ah, tu devrais lire telle personne, tel oui. univers pourrait peut-être correspondre à ta sensibilité. » Donc cette chose-là, elle se fait aussi par cooptation, dans le sens découvrir des talents que l'on n'a pas forcément identifiés. La poésie est vaste, hein. Il y a beaucoup de poètes, donc on ne peut pas connaître tout le monde. On a aussi des univers, quand on a démarré l'atelier des Noyers, on avait, j'avais une amie qui gérait une maison d'édition de bibliophilie à Paris, la Cour Pavée, Jacqueline Ricard, qui elle-même travaillait avec des auteurs québécois, donc j'ai pu identifier des poètes québécoises par ce biais-là, qui sont par ailleurs des amis. Mmh. Donc pour répondre à votre question, il y a l'univers qui nous parle à l'atelier des Noyers, et puis il y a des axes dans lesquels on peut avoir envie d'aller. Quand on apprécie particulièrement un poète, on va peut-être essayer de l'approcher, de lui montrer, de lui faire connaître notre maison. Et puis, si la mayonnaise prend, on va dire, peut-être il y aura un projet qui se fera ensemble. Que dire par rapport, plus par rapport à ces choses-là? Il y a d'autres critères qui rentrent en compte pour nous à l'atelier des Noyers. C'est comme nous sommes une toute petite structure et qu'on demande aussi aux auteurs et plasticiens de contribuer par leur présence et par leur joie et par leur créativité à l'atelier des Noyers, on va avoir des personnes avec qui on n'a tout simplement pas envie de travailler parce qu'ils considèrent que leur travail, c'est d'écrire la poésie, mais une fois la poésie écrite, ils n'ont pas forcément envie d'aller la défendre. Donc on va avoir aussi ce côté d'essayer de travailler avec des gens qu'on a rencontrés, avec qui le feeling passe. Alors là encore, c'est quelque chose de complètement subjectif. Il y a des personnes dont j'apprécie particulièrement l'écriture, mais qui sont particulièrement pas faciles au niveau humain, et j'ai pas envie d'aller sur ce créneau-là parce que pour moi ça forme un ensemble. Une maison d'édition, ça porte un souffle et ça porte aussi un certain nombre de valeurs. Donc on essaye d'œuvrer dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'on privilégie le fait de rencontrer les personnes avant de faire les livres. C'est pas toujours possible, mais avec les visios maintenant, on essaye au moins de pouvoir, au moment de la sortie des ouvrages, avoir cette possibilité-là.
Donc vos auteurs ou plasticiens sont partie prenante de la maison d'édition et sont vraiment des gens qui s'investissent.
Qui s'investissent, on peut donner l'exemple. On a eu récemment le marché de la poésie à Paris. Mmh. On a plus de 40 auteurs et plasticiens qui se déplacent pour venir signer. Ils se déplacent sur leur denier. On n'a pas l'économie possible pour les défrayer, pour les déplacements.
D'accord.
Donc c'est un engagement aussi. Et des livres, publier un livre de poésie, s'il n'est pas défendu ou s'il n'est pas visible, ça n'a pas forcément de sens. Donc, on essaie de privilégier cette orientation-là.
D'accord. Avez-vous été tenté, à un moment ou à un autre, aussi par l'auto-édition ? C'est-à-dire par... vous publiez essentiellement vos recueils en version papier, on va dire, hein, que l'on peut acheter, etc. Mmh. Vous ne publiez pas spécialement en ligne ?
Pas en version numérique. Alors, pour moi, je suis une de la vieille génération, le livre, c'est livre papier, c'est pas livre numérique.
Voilà, d'accord.
Donc, je ne juge pas cette chose-là, mais pour moi, en plus, dans le concept de l'atelier des Noyers, on défend ça comme une expérience sensorielle qui commence par le toucher. Donc le toucher avec le livre numérique, c'est râpé, c'est autre chose, c'est pas négatif en soi, mais c'est pas le projet qu'on a voulu mettre en place. Pour nous, le premier contact est un contact sensoriel avec le livre. On a choisi un papier texturé pour la sensation qu'il donne lorsque l'on prend le livre en main, et cette chose-là, elle peut pas être rendue par un livre numérique. Donc ça, c'est pour la première partie. Sur la question de l'auto-édition, non, on est une maison d'édition à compte d'éditeur, donc on ne publie pas on n'est pas auto-édité. Ceci étant, étant moi-même poète, j'ai quelques titres dans la collection, entre autres pour la jeunesse, avec des images d'Adeline Ruel sur le personnage d'une petite grenouille qui s'appelle Georgette, que nous avons créée ensemble et qui développe un certain nombre de facéties dans les ouvrages. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on pourrait dire que Claire Delbar est auto-éditée à l'Atelier des Noyers sur quelques titres. Techniquement, c'est juste, mais c'est la même. C'est avec un contrat, et avec l'ardeur que je mets à publier les titres, je m'autorise un titre de temps en temps parce que je le mérite, en fait.
Parce que vous le valez bien.
Parce que je le vaux bien. Non, surtout parce que Georgette réclame son dû.
Parlez-moi un peu de Georgette.
Georgette, c'est une petite grenouille qui s'adresse aux enfants ou aux adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Et elle explique des expressions de la langue française, elle explique ses humeurs, elle explique des expressions sur le corps humain, et bientôt elle va partir au voyage avec différents modes de transport. Donc voilà, c'est un petit personnage que l'on aime bien retrouver, qu'on travaille en classe, parce que dans la médiation, c'est le personnage de la grenouille est facile à travailler. Donc Adeline va dans les classes avec sa petite grenouille, et je vais aussi dans les classes avec la petite grenouille, donc en atelier graphique pour Adeline et en atelier d'écriture pour moi.
D'accord. Et pourquoi Georgette ?
Alors, Georgette, il fallait trouver un prénom qui commence par un G, puisque c'était une grenouille. Ah. Et on a trouvé que Georgette avait un côté un petit peu vintage qui s'accordait particulièrement bien avec notre grenouille. Je n'ai pas dit ringarde, j'ai dit vintage.
Si je puis dire, c'est une grenouille sans âge, en fait. C'est ça.
C'est une grenouille sans âge avec beaucoup d'humour.
Très bien. Alors... Oui, donc il n'y a en fait dans votre maison d'édition aucun auteur qui est publié à compte d'auteur. C'est toujours
contrat d'édition systématique avec avaloir versé à la publication, ce que nous ne sommes pas très nombreux à faire dans le secteur, mais chez nous c'est le cas. Tous les titres ont fait l'objet du versement d'un avaloir à la publication et de droits d'auteur le cas échéant lorsque l'on a atteint le point mort, ce qui n'est pas le cas de tous les ouvrages, mais ce qui est le cas d'un certain nombre d'ouvrages.
Atteindre le point mort, c'est-à-dire que...
Atteindre le point mort, c'est quand vous versez un avaloir, ça représente X exemplaires vendus, donc si vous en avez vendu plus, après vous versez un pourcentage sur les ventes...
Des droits d'auteur.
De droits d'auteur.
D'accord, très bien. Au bout de la chaîne du livre, Claire, il y a le lecteur. Et il est au bout de la chaîne du livre, et pourtant, sans lui ou sans elle, on est bien d'accord qu'il n'y a point de salut. S'il n'y a pas de lecteur, il ne peut pas y avoir de livre, il ne peut pas y avoir de lecture, etc. Timothée de Fombelle a écrit « Les mille et une façons de lire », un livre que je trouve particulièrement magnifique, un très bel ouvrage, fort drôle d'ailleurs, et qui célèbre le plaisir de lire sous toutes les coutures, si j'ose dire. Si je vous demandais là, maintenant, spontanément, de me dresser quelques portraits types de lecteurs, qu'est-ce que vous me diriez ?
Des portraits types de lecteurs...
Comment définissez-vous le lecteur ? Qu'est-ce que c'est pour vous un lecteur ?
Je pense que la lecture, c'est une expérience qui est singulière et qui est intime. Donc faire un portrait, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il va y avoir autant de lectures différentes que de lecteurs différents. On peut effectivement... dire que pour certains, la lecture de poésie est consolante, pour d'autres, elle est structurante, pour certains encore, elle peut être refuge, ce qui rejoint un petit peu l'idée de la consolation. Elle peut être aussi partir dans l'imaginaire, elle peut être... c'est 15 000 choses différentes, la lecture, en fait. C'est assez, C'est complexe, là. Je suis prise un peu au débotté pour répondre à cette question.
Quelle relation développez-vous, vous, en tant que chef d'une maison d'édition? Quelle relation
avec les lecteurs?
Ouais.
Alors, justement, quand on est maison d'édition, notre problématique, c'est que souvent, on n'a pas le destinataire final à proximité. C'est la raison pour laquelle, moi, je continue à faire beaucoup, beaucoup de salons et beaucoup de rencontres, parce que ça permet justement de prendre la température et de voir comment nos livres sont reçus. Parce que sinon, entre le moment où vous élaborez avec auteur et plasticien l'ouvrage et le moment où il est entre les mains des lecteurs, une fois qu'il est parti dans la nature via les librairies ou via les bibliothèques, vous n'avez plus cette relation-là. Donc la relation, elle est permise, nous, par le fait de rencontrer les acheteurs et les lecteurs lors de salons et aussi lors d'interventions, quand on fait des rencontres en bibliothèque, où l'on explique notre métier, où on lit des ouvrages et où on voit effectivement la réception qu'il peut y avoir. En la matière, par exemple, la réception par les enfants est quelque chose de formidable. Lisez un manuscrit à des enfants avant de publier, vous verrez tout de suite s'il y a des choses qui achoppent.
Ah oui.
Absolument, ils ont une acuité de perception qui n'est pas encore disciplinée par la norme et qui fait que la moindre incohérence est repérée. Donc ça, c'est assez précieux. Après, sur la manière dont les personnes reçoivent nos ouvrages, on a des jolis retours qui nous sont envoyés souvent par mail, que l'on transmet aux auteurs et aux plasticiens, et quelquefois très différents de ce que l'on a voulu ou ce que l'on a pensé mettre en avant dans les ouvrages. Mais l'ouvrage, une fois publié, c'est ce que j'explique toujours aux auteurs et plasticiens, il ne nous appartient plus. C'est l'autre partie du rêve leur appartient, ce n'est plus la nôtre.
Ouais, en fait, il commence à... Je sais pas si on peut dire qu'il commence à vivre.
Oui, c'est une... bien sûr, c'est une autre vie. Titre que lorsque nous avons des lectures musicales ou des expositions ou des lectures dansées, c'est encore une autre forme qui part du livre, qui va vers autre chose, qui peut-être reviendra vers le livre ou pas. Mais c'est la vie de l'art et ça ne nous appartient pas. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir des petits biais pour pouvoir l'appréhender. Donc, en ce sens, par exemple, les retours des bibliothécaires nous sont précieux, les retours des libraires nous sont précieux aussi. Moi, j'aime bien travailler avec l'ensemble de la chaîne du livre. Donc, quand j'ai un projet, je ne vais pas publier le projet comme ça. Je vais souvent aller discuter avec les libraires sur comment ils appréhendent la chose, comment ils voient les choses, s'ils pensent que l'idée est recevable, parce qu'on peut avoir une bonne idée, mais qui, commercialement parlant, n'a pas forcément... de public à trouver. Donc il y a 15 000 choses qui rentrent. On parlait tout à l'heure des différents métiers d'édition. La compétence commerciale, c'est pas un gros mot. Je veux dire, si on fait des bouquins, c'est aussi pour pouvoir les mettre entre les mains des lecteurs.
Bien sûr,
donc il faut un peu réfléchir à cette dimension là et c'est pas forcément, on peut pas le faire tout seul. On est beaucoup plus intelligent en groupe, collectivement, qu'on ne l'est.
Le réseau est important,
quoi. Absolument. Et de ce point de vue là c'est vrai que en dehors de la chaîne d'impression où ce n'est pas un métier que j'ai exercé, moi, j'ai eu la chance, dans mes 61 ans d'existence et plus de 40 ans de métier maintenant, d'avoir accès à différents métiers et donc, du coup, de comprendre la problématique de chacun. Quand j'étais bibliothécaire, par exemple, je ne recevais pas du tout les livres de la même façon. Et comme quand j'ai proposé des projets à faire en bibliothèque, ayant moi-même été bibliothécaire, j'ai eu cette analyse et cette prise en compte de la proposition qui était différente. Mais ça, c'est important parce qu'en fait, on voit souvent depuis sa chapelle et on a du mal à voir l'ensemble de la chaîne. Alors, vous soulignez tout à l'heure qu'effectivement, j'ai été dans des secteurs assez différents, que ce soit linguistique ou professionnel. Mais pour moi, l'univers est vaste et plus on discute avec et plus on se met au parfum des différents métiers, mieux on peut envisager de faire notre travail.
Très bien, très bien. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale, Claire. Et vous avez choisi Max Richter. Alors, vous m'avez laissé le choix du morceau en particulier. Donc, j'ai choisi On the Nature of Daylight. Un petit mot sur Max Richter et pourquoi...
Alors, Max Richter, c'est une musique qui n'est pas forcément toujours très gaie, mais c'est une musique qui m'accompagne beaucoup quand je travaille les manuscrits. Quelquefois, je les travaille dans le silence, mais quelquefois, j'ai besoin d'un fond musical. Et Max Richter m'accompagne depuis plusieurs années. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai proposé ce matin.
Alors nous allons l'écouter. comment en effet ne pas être amoureux d'un tel morceau et d'une telle mélodie, comme je vous comprends, Claire Delbar. Ainsi se termine cette première partie de l'entretien avec Claire Delbar, directrice de la maison d'édition L'Atelier des Noyers. Nous aurons l'immense plaisir de la retrouver pour une seconde partie la semaine prochaine. Et tout de suite après le générique, c'est un choix de Claire aussi, nous écouterons Les mots bleus de Christophe. Alors, à la semaine prochaine.